embarquer dans l'aventure RH, le podcast qui vous raconte la vraie vie des professionnels des ressources humaines. Anecdotes et témoignages, découvrez chaque mois les expériences qui ont marqué leur parcours RH. Juliette Nagy-Dumas est à la tête de l'agence d'inclusion Umondo. Avant de se lancer dans cette belle aventure, Juliette est passée par le CELSA à Paris-Sorbonne, puis un an au Vietnam dans une entreprise dite libérée, c'est-à-dire sans RH et sans manager. À son retour, elle valide son master à l'Université Dauphine et intègre le groupe ADECO en tant que responsable des ressources humaines. Passionnée par les méthodes d'amélioration continue, elle se forme et forme également de nombreuses agences du groupe. Il y a 2 ans, elle participe à la création de Umondo, la filiale insertion et diversité du groupe ADECO. Elle nous confie sa vision des RH et nous décrit le lien qu'elle entretient avec elle.
Je dirais pas que j'entretiens un lien avec les RH. En fait, c'est mon métier, ça fait partie de moi entre guillemets. Jacques, c'est quelque chose que je vis au quotidien, et quand je dis vivre, Jacques, c'est un état d'esprit. Au sens, c'est chercher à comprendre le besoin profond des gens, ou chercher à comprendre ce qu'essaient d'exprimer des gens, et essayer d'organiser les choses de manière que ça arrive. Je vous donne un exemple. Vous avez des opérationnels, ils ont un super salarié qui risque de partir. Si la personne part, va y avoir un fort impact sur le business, et les managers, ils vont peut-être être en détresse même psychologique de devoir reformer quelqu'un, etc. Et c'est de à la fois rassurer le manager, voir comment est-ce qu'on peut maintenir la personne plus longtemps sur le poste, et si c'est pas le cas, anticiper le recrutement pour que la transition soit la plus fluide possible.
Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce secteur d'activité-là plutôt qu'un autre ?
Il y a 2 choses qui m'ont poussé à choisir le secteur d'activité des ressources humaines. C'est à la fois que, intellectuellement, j'aimais bien l'idée qu'il n'y avait pas de bonne réponse, en fait. Il n'y a jamais de bonne réponse. Il faut toujours trouver un équilibre entre les différentes parties prenantes. J'ai l'impression que c'est toujours un challenge, en fait. Chaque journée, il y a des challenges. Et puis après, en termes de sens, moi, j'ai toujours exercé sur des fonctions plutôt opérationnelles. Et c'est vrai que, le matin, on sait pourquoi on se lève. Et on a tous les jours des exemples de ce qu'on fait, à quoi ça sert, tout simplement.
Alors, puisque le matin, vous savez pourquoi vous vous levez, racontez-nous un petit peu votre journée type. À quoi ça ressemble, la journée d'une directrice d'agence d'inclusion ?
Évidemment, je veux dire qu'il n'y a pas de journée type. Mais globalement, en fait, tous les matins, on fait un point avec l'équipe pour répartir les priorités de la journée, les urgences de la journée. Ensuite, j'ai soit des points à voir, commerciaux, des rendez-vous à faire avec des clients pour aller présenter ce qu'on fait. J'ai aussi pas mal d'actions assez techniques, en fait, parce que du fait qu'on lance une nouvelle agence, on a toujours des cas qui ne sont jamais arrivés pour Umondo, que ce soit d'un point de vue droit du travail, d'un point de vue adaptation handicap, d'un point de vue technique, d'un point de vue IT, on a toujours des choses qui ne sont jamais arrivées, donc il faut beaucoup aller chercher la bonne info, vérifier la bonne info. Et puis j'ai une grosse partie de management, en fait, tout simplement, d'accompagner mon équipe, de les aider à grandir dans leur poste pour qu'ils apportent toujours le meilleur service à nos intérimaires et à nos clients.
Juliette Nagy-Dumas, est-ce que vous pourriez partager avec nous une anecdote, un souvenir dont vous êtes particulièrement fière ou satisfaite ?
Moi, à chaque fois, ce qui m'étonne, depuis que j'ai ouvert l'agence, alors évidemment que je suis super fière de l'agence, je me dis, il n'y avait rien il y a un an et demi, là, actuellement, il y a déjà 12 ou 13 personnes qui sont déjà arrivées en CDI, même j'ai une équipe qui, eux, ils prennent plaisir tous les jours, donc ça, c'est quelque chose qui me touche. Mais je dirais que ce qui vraiment me touche, c'est à chaque fois, parfois, on a des discussions assez profondes avec les intérimaires, et parfois aussi avec les clients, du fait qu'on soit ni leur RH, ni leur manager, ils se confient un petit peu à nous, et c'est le moment où ils nous disent, surtout les intérimaires, quand ils me disent merci, vous m'avez aidé à mieux réfléchir, je comprends mieux maintenant, j'ai appris quelque chose, se dire qu'on leur a offert un cadre de confiance pour qu'ils aient un petit peu d'introspection, je pense que c'est vraiment les moments les plus fiers, et ce qui fait vraiment la beauté de notre métier, en fait.
Et à contrario, quels sont les moments difficiles pour un professionnel des RH ?
Je pense que ce qui est le plus compliqué sur ce métier de directeur d'agence, c'est que on a un métier qui est rempli de minuscules actions. On a rien n'est compliqué sur le principe, mais ce qui est compliqué, c'est tout faire en même temps. Et en fait, on mélange du très technique, c'est-à-dire du droit du travail, des choses du droit commercial, avec des choses très peu techniques, qui est qu'on gère que l'humain, l'humain des candidats, l'humain des clients, l'humain de l'équipe. Et voilà, il faut savoir mélanger un peu les deux. Et tout ça, en fait, ça fait beaucoup beaucoup de travail invisible. Et c'est vrai que parfois, les gens, quand on a une belle réussite, ils ont l'impression que c'est facile, alors qu'en fait, on travaille juste comme des fous par derrière.
Est-ce que vous avez un moment particulièrement difficile et compliqué à partager avec nous?
Je pense que les moments qui sont toujours difficiles à accompagner, je dirais, en tant que ce soit RH ou directeur d'agence, c'est que lorsqu'il y a des problématiques, je dirais, liées au harcèlement, à la discrimination, à des choses qui sont hors respect, il faut savoir, voilà, à la fois écouter la personne. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont d'un point de vue, bah voilà, les process, qui est-ce qu'on appelle, quel type d'enquête est faite. Et ça, je pense que c'est des projets qui sont toujours lourds à porter parce que on sait que c'est important pour les gens. Ça peut avoir des impacts graves. Il faut agir tout de suite. Et l'accès à la vérité est malheureusement toujours difficile puisque bah, on n'est jamais là pour savoir ce qui s'est passé. Donc, pour moi, c'est les sujets les plus difficiles à accompagner parce que c'est ceux qui ont un vrai impact vers les personnes et qui sont toujours très délicats et tabous et on a peur de se tromper.
Ça vous est arrivé donc de vous retrouver dans cette situation?
Tout à fait, oui. Pour vous donner un exemple, hein, moi j'ai un intérimaire, une fois il me dit, mais Juliette, je comprends pas pourquoi mon équipe m'a dit, ils m'ont dit que j'étais prise parce que j'étais handicapée. Il me dit, mais je suis pas handicapée, moi. Et il y avait un amalgame en fait qui avait été fait au sein de l'équipe du fait que la personne vienne du Mando. Et bon, peu importe que la personne soit handicapée ou pas, mais c'est tous ces moments en fait, ils sont rattachés à une étiquette et on se dit. Bah dans quelle mesure ça impacte la manière dont ils sont évalués au quotidien, la manière dont ils sont managés. Et ça, je dirais, oui, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est agir vite et tout de suite rediriger vers les personnes ou vers les associations qui vont pouvoir aider la personne.
Et dans le cas de cet intérimaire dont vous nous parliez, qu'est-ce que vous avez fait ou mis en place?
Alors, bah, du coup, je vais expliquer un petit peu déjà ce qui avait pu mener à cette ce raccourci en fait, parce que déjà, je pense que en expliquant ce qu'il y avait à la place des autres personnes sans les accuser, bah, c'est expliquer ce qui amène les gens à stigmatiser en fait, parce que c'est dans la société, hein, c'est pas particulièrement que c'est. On peut dire oui, tous les gens sont racistes, mais ça nous sort pas du problème, quoi. Donc travailler sur les biais, etc. Et puis après, moi, j'avais fait remonter en fait aussi, bah voilà, au service ressources humaines, à la direction, pour voilà, sans accuser une personne directement, mais rappeler l'importance de la sensibilisation des équipes. Moi, ce que je recommande s'il y a des RH qui m'écoutent, c'est vraiment de former les équipes et pas que les managers. Aussi les équipes, pas que les dirigeants, parce que souvent c'est d'abord les dirigeants qui ont les formations sur la question des biais inconscients. Parce qu'en fait, on a tous des biais, ce qui peut amener à des discriminations. Faut savoir que je crois il y a plus de 80% des discriminations qui sont non intentionnelles. Et voilà, il est vraiment important d'en prendre conscience si on veut pouvoir travailler dessus. Voilà, et je recommande notamment un atelier. D'ailleurs, moi j'en anime, mais il n'y a pas que moi. Hein. Ce qu'on appelle la fresque de la diversité. C'est 3 heures d'atelier de groupe en équipe, justement pour comprendre le chemin du stéréotype au sein de soi-même, jusqu'au risque de discrimination et comprendre que ça nous touche tous en fait. Et moi y compris. Hein. Je m'inclus dedans quoi. Donc c'est en faisant attention et en se remettant en question qu'on peut essayer de se déconstruire le plus possible.
Juliette, comment est-ce que vous envisagez l'évolution des RH dans les prochaines années?
Je pense que l'attente profonde des salariés et si on comble l'attente profonde des salariés, c'est pour moi ce qui aura le plus d'impact sur le business, hein, sur la productivité des équipes. C'est vraiment, je dirais, un retour aux basiques ou aux fondamentaux, c'est d'écouter la personne. Je pense qu'ils ont, malgré le télétravail, leurs envies de télétravail, ils ont besoin de voir des RH, ils ont besoin d'identifier physiquement les personnes et de vraiment créer ce cadre de confiance et de respect au sein de l'organisation, qu'elle ait 3 salariés ou plusieurs milliers.
Vous venez d'écouter L'Aventure RH, le podcast qui vous plonge au cœur des ressources humaines. Vous avez aimé ce podcast et vous avez envie de prendre part à l'aventure? Contactez-nous à l'adresse contente@flf.fr.